Imaginez, là, vous partez pour vous reposer dans le sud, dans un tout inclus. Air Transat vous a vendu ça. Et puis là, vous ne pouvez pas quitter l'hôtel. Votre voyage est fini, vous voulez rentrer au Québec et vous ne pouvez pas quitter l'hôtel parce qu'ils ne sont pas sûrs que quand ils vont vous mettre dans l'autobus pour vous amener à l'aéroport, ils ne sont pas sûrs que l'autobus va se rendre à l'aéroport tellement les rues sont devenues violentes. Ça pète, ça manifeste, ça pille, il y a des morts. Fait que là, tu es pris dans ton hôtel. Et c'est ce qui se passe. Il y a plusieurs dizaines de Québécois qui sont dans cette situation-là. Je dois vous dire que j'ai parlé avec les gens à Ottawa, là, qui parlaient au nom du gouvernement de Justin Trudeau et qui m'ont dit, pour le moment, il n'est pas question d'envoyer des militaires canadiens pour sortir nos ressortissants. Ils m'ont dit, écoutez, les vols commerciaux sont toujours en opération. Hein? Le problème, c'est pas que les avions peuvent pas se poser. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à amener les touristes, nos Québécois, à l'aéroport. Alors, pour le moment, c'est l'ambassade là-bas qui a du personnel puis essaye d'organiser des transports sécuritaires pour permettre aux gens, donc, d'aller prendre leur avion et donc de revenir à la maison. Alors, on va évidemment essayer de comprendre, là, pourquoi c'est encore... Pourquoi c'est encore le bordel, tu sais, à Haïti, là, dans le fond, là? C'est ça la question? Ça fait des années, ils ont vécu des épreuves épouvantables, des catastrophes naturelles, il y a eu de l'aide, il y a eu des opérations de toutes sortes, puis ils sont encore dans la misère. C'est pas drôle, vous allez voir, là, on a réussi à parler à quelqu'un là-bas, entre deux patients. Elle s'appelle le docteur Claire Casamajor, médecin à l'hôpital de Port-au-Prince. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous? Dites-nous.
Ça va bien, merci. Je tiens bon.
Parlez-nous de la situation actuellement à Port-au-Prince.
Actuellement à Port-au-Prince, dans le centre-ville, et la circulation est assez fluide. J'ai pu me déplacer pour arriver à l'hôpital. Et il y a très peu de voitures dans les rues, mais il y a une certaine frénésie de la population et qui cherche à ravitailler un peu par-ci, par-là, parce que nous faisons face à une pénurie d'eau. Et on voit des gens avec des seaux, des galons un peu partout à la recherche de quelques gallons d'eau. Et les supermarchés sont fermés, donc la population commence à être vraiment aux abois.
Vous parlez de pénurie d'eau. Qu'est-ce qui cause cette pénurie d'eau?
Parce que les stations d'eau traitée sont fermées.
Et qu'est-ce qui explique que les stations de traitement d'eau sont fermées?
Parce que les propriétaires ont peur d'ouvrir leurs portes, de peur d'être vandalisés, comme pour la plupart des business.
Il y a eu beaucoup de vandalisme de commerce?
Et dans certains endroits, oui. Et à Delma, dans le centre-ville, et même des commissariats ont été brûlés. On peut dire que la colère augmente de plus en plus. Plus le gouvernement reste silencieux, plus la colère augmente. Voilà.
Et pourquoi la colère est-elle à ce point forte? Pourquoi tant de colère?
Et la raison est simple, parce que le gouvernement, jusqu'à présent, n'a pas tenu ses promesses. La vie devient de plus en plus chère, la décote de la bourse, dans l'inflation, et puis les gens ont faim, voilà.
Les gens ont faim?
Évidemment, parce que il faut beaucoup plus d'argent pour aller au marché. Les gens ne trouvent pas, les gens ne travaillent pas, ils n'ont pas assez d'argent. Le dollar, à cause de l'inflation, les gens ne peuvent pas se procurer ce dont ils ont besoin, donc c'est la colère. Et le gouvernement avait fait tellement de promesses et les gens sont en colère et ne veulent plus rien entendre parler de ce gouvernement.
Donc, les Haïtiens manifestent parce qu'ils souhaitent le départ du gouvernement, le départ du premier ministre ou du président?
Du président et de son équipe.
Quelles sont les promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues?
Par exemple, l'électricité, ils avaient promis de donner l'électricité 24 heures sur 24, ce qui n'a pas été fait. Ils avaient promis de démarrer l'agriculture pour qu'il y ait assez à manger et pour la population, ce qui n'a pas été fait. Ils avaient promis des emplois, rien n'a été fait. Au contraire, on assiste à l'augmentation du prix et des prix de tous les produits de première nécessité. Donc, on comprend bien que un peuple qui n'arrive pas à manger, les hôpitaux sont dépourvus, les gens n'ont pas des soins de santé. Donc, tout cela augmente la colère du peuple qui ne veut plus rien entendre avec ce gouvernement. La colère augmente d'autant plus de 8 jours qu'il manifeste dans les rues. Le gouvernement n'a pas réagi, c'est-à-dire il ne s'est pas adressé à la nation. Personne ne sait ce qu'il fabrique. On n'entend pas parler du gouvernement et la colère augmente. Voilà.
Diriez-vous que Port-au-Prince est une ville dangereuse présentement?
Dangereuse, c'est fort. Parce qu'il y a des gens qui y vivent, mais c'est vrai qu'on doit prendre beaucoup de précautions et les manifestants deviennent vraiment agressifs de plus en plus, mais ils manifestent pour ce qu'ils pensent être ce qu'ils veulent, ce qui est légitime.
Mais docteur Casamajor, quand on observe les scènes de pillage là et on voit des pilleurs, donc, vider des magasins, entrer, par exemple, dans des garages là pour réparer des voitures et piller le matériel. On se dit que ce sont les Haïtiens qui se font mal à eux-mêmes lorsqu'ils détruisent le matériel des petits commerçants.
Tout à fait, ils se font mal. Mais vous devez vous dire bien que le peuple, vous voyez, en colère, lui, il n'a rien à perdre. Il est en colère. Il veut que sa situation change et rien n'est fait. Donc, et il ne réfléchit plus. Et plus on ne répond pas à ses revendications, plus il est en colère parce que lui, il n'a rien et se dit, moi, je n'ai rien à perdre. Voilà. C'est ça la réflexion d'un groupe de personnes affamées.
Oui.
Qui crie famine et que personne n'entend. Quand vous connaissez bien le dicton qui dit « Ventre affamé n'a point d'oreille, encore moins de conscience. » Et nous y sommes.
En terminant, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire « Ça fait des années qu'on a espoir que Haïti va se remettre sur pied, que la situation va s'améliorer. De l'argent est envoyé, des troupes ont été envoyées, du matériel médical a été envoyé, des livres et tout le reste. Et on observe ce qui se passe et on a l'impression que Haïti n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce que vous répondez?
C'est vrai, nous avons du mal à nous en sortir. Mais tant que le peuple prend conscience de sa situation, tant que nous voulons que les choses changent, moi, je pense qu'il y a de l'espoir.
Je rappelle que vous êtes médecin à l'hôpital de Port-au-Prince, docteur Claire Casamajor. Merci.
Merci beaucoup.
Et là, on voulait savoir pourquoi c'est si compliqué d'assurer la sécurité à Haïti. Et on se tourne vers Michel Martin, qui a été commandant du contingent canadien en Haïti pour les Nations unies. Michel Martin, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
D'abord, rappelez-nous rapidement ce que vous avez fait là-bas et combien d'années vous avez passé là-bas.
Bon, j'ai fait 3 termes pour la MINUSTA, qui est cette mission des Nations unies. Là. J'en ai fait en 2006, 2007, 2009, 2010. J'étais le jour même du tremblement de terre, le chef du contingent canadien. Je suis retourné en 2012. Bref, j'ai quand même une bonne idée là, des conditions en Haïti et des mesures de sécurité là, qui peuvent être mises en place pour essayer d'aider les gens qui sont coincés, prisonniers de cet hôtel.
Justement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'expérience que vous avez? Qu'est-ce qu'on fait pour aider nos Québécois qui sont là-bas pour pouvoir les amener en toute sécurité à l'aéroport pour qu'ils puissent prendre le vol d'Air Transat notamment là?
Bon, la première chose, je pense que le fait d'être dans ce complexe hôtelier là à Indigo, ça les avantage en ce sens qu'ils sont loin de la capitale. Donc, environ 1h15, 1h30 de route. Donc, il y a beaucoup moins de gens qui peuvent aller manifester. Leur sécurité est quand même beaucoup plus assurée en demeurant dans le complexe hôtelier. Mm-hmm. Sauf qu'entre-temps, ces gens-là, ils veulent retourner chez eux. Bon, il y a des transports héliportés qui se font avec d'autres compagnies aériennes. Je pense qu'Air Transat refuse de faire de prendre cette option-là pour l'instant. La voie terrestre, c'est risqué. Je vous dirais qu'actuellement, compte tenu qu'il n'y a seulement qu'une route, c'est la route nationale numéro 1 qui relie l'aéroport de la capitale avec le complexe hôtelier. Ces gens-là sont coincés. Ils ne peuvent pas le faire par bateau. Donc, il va falloir trouver une façon, avec des escortes, soit des Nations Unies, de la force policière, s'assurer qu'il peut y avoir un déplacement, un convoi effectué pour ramener tous ces gens-là vers l'hôtel, c'est-à-dire vers l'aéroport de façon sécuritaire.
Bon, là, il y a des responsables au sein du gouvernement Trudeau à qui j'ai parlé, qui m'ont dit, parce que je leur disais, allez-vous envoyer du monde, là? Allez-vous envoyer de nos soldats, par exemple? Est-ce que vous l'évaluez? OK, peut-être que c'est un peu trop tôt pour les envoyer, mais est-ce qu'au moins vous évaluez la possibilité d'aller les aider si jamais là la situation se corse? Ils m'ont dit pour le moment non. On a du personnel à l'ambassade qui est en train d'organiser les transports. Je dis ouais, oui, mais ça, du personnel à l'ambassade. Et là, ils m'ont dit à l'ambassade, il y a des personnes qui sont spécialisées en matière de sécurité. Et là, ce que j'ai compris, c'est qu'à notre ambassade canadienne à Port-au-Prince, il y a probablement des militaires ou des policiers qui sont là-bas et donc qui vont pouvoir aider nos concitoyens, là.
Oui, bien, cette information-là, elle est juste. À l'ambassade, il y a du personnel attitré pour la sécurité, des gens de renseignement et des militaires qui sont en poste. Ils sont pas nombreux. Et malheureusement, la mission des Nations Unies, il y a une force, il y a quand même une présence des Nations Unies en Haïti, mais cette mission-là, elle a changé il y a un an et demi pour plus un accompagnement, un service conseil. Donc, tous les militaires qu'il y avait là, tous les équipements blindés et compagnie, il en reste beaucoup moins qu'avant. Et ça aussi, ça pourrait être un outil qui pourrait être utile de concert avec les autorités canadiennes, assurer un déplacement. Tu prends des autobus, tu t'assures que la route est dégagée, tu effectues les déplacements, tu ramènes ces gens-là à l'aéroport et je pense que ça aiderait tout le monde. Ça, c'est facile à dire pour moi ici à Montréal, mais c'est plus compliqué que ça en Haïti. Même la police haïtienne, je peux vous dire qu'elle est très fragile. Il manque d'équipement, il manque d'effectifs, les communications sont pratiquement inexistantes. C'est très complexe comme situation pour la sécurité en Haïti actuellement. La seule chose qui joue en leur faveur, c'est la température. Ils n'ont pas de neige, ils n'ont pas de verglas. Autre que ça, il n'y a rien qui les aide.
Alors, pourquoi c'est si compliqué d'assurer la sécurité à Haïti, Michel Martin? C'est quoi? C'est parce qu'il n'y a plus d'autorité civile? L'État à toute fin pratique, n'est pas fonctionnel? Les policiers sont mal payés, donc sont peut-être fragiles à la corruption? C'est quoi le problème?
Ben, c'est tout ce que vous venez d'exprimer. C'est un ensemble de facteurs. La situation politique, elle est tordue. Situation économique, les gens vivent dans une pauvreté incroyable. Tu as deux catégories, tu as les très, très riches, puis les autres sont toutes très, très pauvres. C'est pas compliqué, là. Au niveau là, des infrastructures, les routes, là, sont les celles qui sont existantes sont dans un état lamentable. Puis les policiers, parce que c'est la force, il n'y a pas de militaires haïtiens là-bas, c'est la PNH, la police nationale haïtienne, qui assure la sécurité, mais ces pauvres gens-là, ils sont sous-équipés, ils sont pas assez nombreux, puis là, ils doivent faire face à des opérations de contrôle de foule là, dans la capitale. Mais laisse-moi vous dire que la fatigue va s'installer assez rapidement. Là. On le voit en France, là, ils ont des milliers de policiers là avec les gilets jaunes, puis ils commencent à être essoufflés, imaginez-vous en Haïti. Donc, moi, je vous dis, c'est peut-être pas la bonne destination si vous avez tenté de faire des vacances dans les prochains mois. Là. Évitez le secteur, s'il vous plaît.
En tout cas, je vais vous dire une chose. Vous avez dû remarquer, comme moi, quand la docteure à qui on a parlé a dit « c'est un peuple qui n'a plus rien à perdre », moi, ça m'a donné froid dans le dos. Parce qu'un peuple qui n'a plus rien à perdre, c'est un peuple qui est désespéré puis qui peut poser des gestes désespérés, en terminant, Michel Martin.
Oui, mais moi, je pense que pour nos gens, nos visiteurs, les Haïtiens, là, c'est un peuple là, c'est un bon peuple, c'est des bonnes personnes. Puis les touristes, que c'est que vous voulez, ça amène du travail aux Haïtiens. Je pense pas qu'ils leur fassent de mal. Toutefois, allez pas vous promener tout seul à Port-au-Prince avec des bijoux, puis là, allez comme curieux, comme vous pourrez peut-être être tenté de faire, puis ça à Montréal quand il y a une manifestation. Ça, je vous dis, là, évitez ça à tout prix. Là. Sauf qu'il faut sortir ces gens-là le plus rapidement possible pour leur sécurité puis passer à autre chose. Là, je pense que le Canada doit prendre les choses en main puis assurer avec la compagnie aérienne, écoutez, là, les hélicoptères, là, c'est pas ce qui tombe à tous les cinq minutes. Là. Je pense qu'il y a moyen de faire de quoi pour les sortir graduellement. Je comprends que c'est compliqué avec les bagages puis le poids, mais sortons les gens, occupons-nous du matériel en deuxième phase.
Michel Martin, ancien commandant du contingent canadien en Haïti pour les Nations Unies. Merci, Michel Martin.
OK, merci. Bonne journée. Au revoir.